Merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Ce soir, dans le débat du jour, nous parlons de cinéma et de Donald Trump.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et oui, car en cette veille d'ouverture du Festival de Cannes, les professionnels du secteur observent avec une certaine fébrilité les intentions du président américain. Car il y a 8 jours, Donald Trump a annoncé les droits de douane de 100% sur les films produits hors des États-Unis. Et il a écrit ceci, il l'a écrit en lettres majuscules sur son réseau social. « Nous voulons des films « made in America ». ». Après l'automobile et les puces électroniques, le cinéma semble donc être une marchandise comme les autres pour le locataire de la Maison-Blanche. Notre question ce soir, la culture sera-t-elle victime de la guerre commerciale ? Que signifient les annonces de Donald Trump ? Quelles conséquences s'il joint les actes à la parole ? Est-ce que la diversité culturelle se trouve aujourd'hui menacée ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Juliette Prissard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déléguée générale d'Eurocinéma, qui est une association de producteurs de cinéma et de télévision. Face à vous, Édouard Moria, bonsoir.
Bonsoir.
Producteur, ancien vice-président long métrage du syndicat des producteurs indépendants et membre de la Task Force en charge des négociations des accords avec les plateformes américaines. Notre troisième invité est en ligne avec nous, Marianne Roméo, bonsoir.
Bonsoir.
Productrice à Petit Production, qui est une société de long métrage, documentaire et fiction, ancienne directrice de salle de cinéma. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Édouard Moria, pour débuter, quel est votre ressenti d'un festival de Cannes qui va s'ouvrir donc demain, 15 jours après cette annonce de Donald Trump? Est-ce que, on ne va pas dire que ça a gâché la fête, mais est-ce que ça a amené de gros nuages noirs au-dessus du cinéma?
Alors, c'est une question assez complexe, puisque je dirais que le cinéma français, le cinéma européen, depuis des années, pour exister dans ce monde globalisé, dans ce monde dans lequel la puissance américaine, le cinéma américain, est évidente. Le cinéma américain domine partout dans le monde.
Encore maintenant ?
Et encore maintenant, bien sûr, c'est bien sûr encore plus maintenant, je dirais, puisque les plateformes américaines, les Netflix, Amazon et Disney, ont pris le relais, je dirais, de la puissance de feu du cinéma en salle. Donc maintenant, les Américains sont puissants en salle et ils sont puissants avec les plateformes. Les seules grandes plateformes mondialisées, ce sont des plateformes américaines. Donc c'est vrai que il est un peu curieux d'entendre Trump évoquer cette industrie hyper puissante comme étant une industrie américaine en grand danger qu'il faut défendre. Alors c'est vrai qu'on est c'est un peu paradoxal, on va dire, sa position est un peu paradoxale.
Juliette Prissard, vous, comment est-ce que vous avez réagi à cette annonce de Donald Trump?
Donald Trump, aujourd'hui, il envoie un nouveau message. Jusqu'à présent, les lobbies américains de Hollywood envoyaient plutôt le message disant « Lorsqu'on vient en Europe pour tourner des films, il y a trop de régulations. » Ça, c'était le premier message qu'on avait auparavant, qu'on a toujours d'ailleurs. Ouais. Et puis, Donald Trump, il avait envoyé un certain nombre de messages en disant « Oui, c'est vrai, c'est un scandale. Quand mes entreprises viennent, mes studios hollywoodiens viennent en Europe pour tourner, il y a trop de régulations, il faut arrêter tout ça, c'est un obstacle à la libre prestation de services et vous devriez enlever tout ça. » Et puis là, tac, un nouveau message est arrivé en disant « Je veux récupérer mes tournages. I want my shooting back, je les veux, ils doivent revenir aux États-Unis. »
Parce qu'il y a de plus en plus de tournages de productions américaines à l'étranger.
Absolument, et aussi parce qu'aux États-Unis, tourner est assez cher. Et que aussi, il y a une stratégie de développement à l'international très forte de la part des plateformes de VOD qui sont somme toute assez récentes. Si on regarde bien les plateformes de VOD, type Netflix, elles sont arrivées il y a une petite dizaine d'années, il n'y a pas si longtemps que ça. Et elles ont décidé de se développer à l'international, partout, et en Europe particulièrement, car c'est un marché extrêmement juteux, rentable, et donc elles se sont beaucoup développées.
Finalement, c'est ce qui fait la force aujourd'hui de l'industrie américaine dans ce domaine, parce que je rebondis sur ce que disait Édouard Moria, de plus en plus forte, vous disiez, l'industrie finalement cinématographique américaine. Est-ce que ça contrebalance la situation d'Hollywood aujourd'hui? Parce que là, pour le coup, ça chute du côté de Hollywood, il y a eu les incendies en début d'année, il y a eu la grève des acteurs et des scénaristes qui a duré près de 5 mois en 2023. Et la conséquence, c'est près de 40% en 10 ans hein, de films et de séries produits à Hollywood en baisse.
Oui, mais en effet, ce que dit Juliette est exact. C'est-à-dire qu'il y a un double mouvement. Pour se développer à l'international, les grandes majors américaines, l'industrie hollywoodienne, a dû venir s'implanter sur nos marchés. Et c'est le cas, par exemple, aujourd'hui, Netflix, les grandes séries Netflix, qui sont des séries produites en France. Lupin, voilà, c'est bien un mix d'une majeure américaine qui travaille avec l'industrie française pour produire ce qu'on appelle du local. Ouais. C'est-à-dire que quand c'est majeur international, pour se développer, bien sûr qu'elles présentent des films américains, il y a les grandes séries américaines, mais elles ont aussi besoin de travailler avec l'industrie locale. Et c'est exactement ce qu'on a fait, en fait, depuis maintenant 3 ans, dans le cadre d'une directive qui s'appelle la directive SMA. On a fait en sorte, notamment en France, on a fait en sorte que ce soit un accord gagnant-gagnant. C'est ça ce qui est malin dans notre système, c'est qu'on fait en sorte que, certes, aujourd'hui, les Français, les Européens consomment, s'abonnent aux grandes plateformes américaines, ils s'abonnent à Netflix, ils s'abonnent à Amazon, à Disney+, et on oblige ces plateformes à investir aussi dans le cinéma français et européen. C'est ça notre bonne idée.
Ouais. Ça, c'est la fameuse exception culturelle. Ce qui fait selon des accords qui datent de 1994, la culture n'est pas, peut-être contrairement à ce que pense Donald Trump, on en parlera, une marchandise comme les autres. Il y a un accord qui grave cela dans le marbre.
C'est ça. En fait, c'est tout le paradoxe de cette saillie du président américain. C'est vraiment de venir s'inscrire complètement à rebours de tout ce qui a été jusqu'à présent. L'idée que la culture, en tout cas nous, notre vision européenne, française et européenne, c'est que la culture n'est pas une marchandise comme les autres. Ouais. C'est une exception dans le cadre d'une guerre mondiale économique, évidemment, les accords du GATT notamment.
Mais je reprends l'exemple que vous citiez avant d'entendre Marin Roméo, qu'on n'a pas encore entendu dans ce débat du jour, celui de Lupin, qui est une œuvre française. Si demain, l'annonce de Donald Trump est suivie des faits, les droits de douane de 100% sur les films produits hors des États-Unis, ça veut dire que Lupin sera plus diffusé sur Netflix ?
Ah oui, ce que veut faire le président Trump, c'est faire en sorte que les majors américaines arrêtent de produire des œuvres dans d'autres pays qu'aux États-Unis. En fait, il fait la même chose qu'avec les voitures ou avec les téléphones. Bon, on a vu avec le succès qu'on a vu, mais voilà, son objectif, c'est de faire en sorte que les tournages qui aujourd'hui se font à l'étranger reviennent aux États-Unis. C'est clairement pas l'objectif des majors américaines aujourd'hui. Donc, le paradoxe, c'est ça. Il y a l'espèce de deux guerres économiques. Il y a celle de Trump qui veut faire revenir les tournages aux États-Unis. Et puis, il y a la guerre économique un peu plus classique des grandes majors américaines qui, elles, souhaitent venir en Europe pour gagner de l'argent et avoir le moins de contraintes possibles. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est ça. Il y a deux guerres, en fait, différentes avec des objectifs très différents.
Mais Marianne Roméo, c'est une catastrophe qui guette l'Europe si ces productions sont frappées de ces 100% de droits de douane, l'Europe qui est tant présente sur les grandes plateformes américaines qui dominent aujourd'hui le marché.
Ben, ce que Trump nous adresse comme signal nous incite à renforcer la performance de notre modèle français, qui serait d'ailleurs le même réflexe pour tout autre fleuron de l'industrie française. Le cinéma français est un fleuron de l'industrie française, un fleuron qui est en plus quelque chose qu'on peut comparer aussi sur sa partie artisanale, sur sa partie indépendante, à la haute couture, en tout cas un haut artisanat avec des savoir-faire. Mais il faut savoir que cette question de la souveraineté culturelle, ce n'est pas la première fois qu'elle occasionne des tensions transatlantiques. On a eu de nombreuses batailles à faire valoir. L'exception culturelle, c'est quand même quelque chose qui s'est défini de haute lutte. Dès 1946, avec la mise en place du mécanisme du financement du cinéma français après la Seconde Guerre mondiale, très vite avec les accords Blum-Burns, il y a eu une crise par rapport à ce que prévoyait l'accord comme en échange d'un effacement partiel de la dette française. La France a accepté d'ouvrir largement ses salles aux films américains et ça a provoqué une crise dans le secteur français qui a amené par la suite le ministère Malraux à mettre en place l'avance sur recettes en 59. Donc en fait, à chaque étape de l'exception culturelle, il y a souvent eu, la dernière fois par exemple en 2012, qu'il y a eu une mise en cause de l'exception culturelle française, qui est souvent mise en cause pas seulement par les Américains, parfois par les libéraux au niveau européen, eh bien ce sont des réalisateurs américains qui se sont mobilisés, Steven Spielberg en premier lieu, pour défendre l'exception culturelle française qui apporte beaucoup d'autres choses au cinéma américain.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est que l'exception culturelle française européenne au sens large, elle survivra, y compris à Donald Trump.
Je l'espère. En tout cas, le fait de renforcer notre politique publique, le fait de considérer que la culture du cinéma français, sa cinéphilie, ses spécificités, le Festival de Cannes, la Cinémathèque française, tout ce qu'a construit la France comme spécificité culturelle dans les salles de cinéma, c'est quelque chose qui profite aussi au cinéma américain. Pas seulement les incitations à tourner en Europe, comme d'ailleurs la France prévoit de le faire aussi avec les 350 millions d'euros qui ont été octroyés par le plan de relance européen de constituer la grande fabrique de l'image, c'est-à-dire des studios technologiques partout dans pratiquement toutes les régions françaises, qui est donc un grand plan qui devait aussi accueillir évidemment des productions américaines, hein, pas seulement des productions d'œuvres, mais des productions aussi de contenu. Eh bien, évidemment que nous étions complètement préparés à accueillir plus de tournages américains, puisque il y a aussi des crédits d'impôt, des possibilités. Je pense que les Américains n'ignorent pas qu'on a un système lié à l'intermittence, donc évidemment qu'il y avait une intention pour eux et qu'il y a une intention pour eux de tourner en Europe. Maintenant que Trump veuille récupérer ses tournages, c'est vrai qu'il y a quelques États fédéraux qui mettent en place des incitations fortes pour des tournages aux États-Unis, mais c'est vraiment pas le cas de tous, parce que comme le disait Juliette, il y a des guildes, il y a des organismes qui protègent en fait le coût du travail et les process qui sont chers aux États-Unis. Et donc peut-être qu'on va voir fleurir des nouvelles façons d'inciter les tournages à se développer aux États-Unis.
Gilles Prissard.
Non, je voulais raconter aussi peut-être que on est là dans une histoire de modèle, de vision que l'on a par rapport à cette industrie. Nous considérons que c'est une industrie culturelle.
Ouais.
C'est donc ça, je rebondis sur ce qu'a dit Marianne. C'est pas forcément le cas aux États-Unis qui le voient comme une industrie. Et donc ils considèrent qu'ils doivent apporter au public ce que le consommateur demande. Nous savons l'idée selon laquelle nous voulons offrir des choses au public, dans le sens où nous voulons proposer c'est l'idée que l'artiste va proposer quelque chose au public. Donc cette idée-là, qui date de Malraux, et qui a été renforcée par aussi tous les mouvements d'éducation populaire après la guerre aussi, qui est de dire, voilà, le public, il a besoin d'être formé, d'être citoyen à travers la culture. Cette idée-là, elle est hyper forte en France, et c'est ça qui a construit toutes les politiques publiques. Et donc nous, on est des artisans après les gens qui l'ont fait avant nous, mais en gros sur la réglementation, elle permet d'être dans une logique de l'offre en disant ben voilà, si Netflix il arrive ou si Disney arrive sur le territoire, il doit non seulement investir, mais il doit avoir des contraintes pour participer à ce modèle. Ça, pour les Américains, c'est très compliqué à comprendre.
Oui, il y a clairement une guerre culturelle, j'aime pas le mot parce qu'il est galvaudé, mais c'est ça. Il y a un enjeu culturel en tout cas dans ce sujet.
Très fort.
Édouard Moria, je voudrais qu'on revienne sur l'enjeu américain. Est-ce que finalement, on posera la question de l'intérêt, l'utilité, la pertinence de l'annonce de Donald Trump, mais est-ce que ça ne va pas se retourner contre les États-Unis dans le sens où aujourd'hui les films étrangers représente, en tout cas l'année dernière, ça prenait 4% des recettes au box-office américain. Donald Trump veut donc des droits de douane sur 100% des films produits hors des États-Unis. Bon, on a compris que c'est pas très important. Le danger, réciprocité. Si réciprocité il y a, comme c'est le cas dans la guerre commerciale, ben là, les conséquences, elles sont catastrophiques pour les États-Unis. Le cinéma, c'est une des industries les plus exportatrices des États-Unis.
Oui, on l'a dit. On est dans le pur paradoxe. Alors, de Donald Trump, hein, il est un peu habitué à ça quand même. Hein. Depuis le mois de janvier et le début de sa présidence, on n'est pas à une surprise près. Mais il est vrai qu'une industrie ultra dominatrice, en effet, sur son propre marché, 96% de son marché est détenu par son propre cinéma. Se lancer dans une guerre commerciale à l'ancienne, je dirais, en mode on va mettre des droits de douane, ça paraît complètement absurde. Ce qui n'est pas absurde, c'est l'idée de faire revenir des tournages. Ça, ouais. On comprend, parce que ses amis canadiens, ceux qui l'aiment beaucoup, là, ceux qui veut annexer, ont évidemment mis en place des outils pour attirer des tournages hollywoodiens.
Il y a énormément de tournages américains au Canada. Il y en a beaucoup aussi au Royaume-Uni.
Bien sûr.
Il y a des incitations fiscales très importantes.
Ben, c'est ça, des pays anglophones naturellement qui offrent en effet un cadre tout à fait parfait, ouais, aux productions hollywoodiennes.
Ça va être une bonne chose, la relocalisation des tournages américains. Comme toute relocalisation peut être perçue comme une bonne chose.
Oui, pourquoi pas. J'imagine que pour les techniciens américains, s'ils peuvent plus faire de films aux États-Unis. Après, le modèle économique américain, le modèle de l'industrie américaine, c'est un modèle qui coûte déjà très cher, qui repose vraiment sur l'international. Hein. C'est une grande partie de l'équilibre économique des films américains. C'est l'international. Donc ça paraît, en tout cas, peu judicieux d'un point de vue économique. Franchement, sans avoir fait des années d'études en économie, on peut quand même s'étonner et penser qu'il n'y a pas forcément un plan très, très précis derrière tout ça.
On cite souvent, par exemple, les Missions Impossibles, qui est un film à succès, et un Mission Impossible s'est tourné dans plusieurs pays étrangers. Ça posera des questions, ça.
Bien entendu. Ouais. Ça paraît très difficile aujourd'hui que l'intégralité de l'industrie américaine, cinéma et audiovisuel, vienne uniquement se tourner à Hollywood et revenir à Hollywood. C'est probablement une référence à un temps très ancien.
Ouais. Marianne Romeo, pourquoi Donald Trump prend ce type de mesure? Je ne me demande pas d'être dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il justifie selon vous? Alors évidemment, on l'a dit, le Made in America qui prime. Mais en l'occurrence, s'il fait cette annonce-là, on a du mal à comprendre quel peut être l'intérêt, selon lui.
Lui, ce qu'il a dans son logiciel, c'est toujours de se dire que de toute façon, les Américains doivent gagner la bataille commerciale, la guerre commerciale à tout prix. Et donc, effectivement, mais on a vu que dans ces annonces, il y avait quand même une part de flou, que parfois il y a des choses qui sont revisitées c'est un euphémisme de le dire. Donc pour l'instant, je crois que la ministre de la Culture l'a dit elle-même, je pense qu'il faut garder notre sang-froid, se dire que ça peut être l'occasion, ce signal, de renforcer notre modèle qui est quand même exceptionnel, qui garantit aussi d'éviter l'accroissement du taux de pénétration du cinéma américain comme dans tant d'autres pays. Nous, on a un cinéma qui vraiment donne la part belle à nos productions qui existent, qui ont une part importante. Là, on a fait un record d'entrée l'année dernière et évidemment, on a vu que le cinéma français tenait bonne place dans ce résultat.
Ce que vous voulez dire, c'est que ça peut être une aubaine finalement pour le cinéma français. Ça protège d'une trop grande invasion entre guillemets du cinéma américain en France ou en Europe. On peut élargir l'Europe.
Tout à fait. Il faut le prendre comme ça. Je pense qu'il faut le prendre comme une aubaine de de repenser notre politique publique, de la renforcer éventuellement, de voir les points qui ont pu poser problème, comme les effets de concentration dans l'économie du cinéma, certaines sociétés de production qui ont peut-être trop rapidement, se sont disproportionnées un peu trop rapidement, peut-être accueillir même des investissements américains. En tout cas, réfléchir notre souveraineté culturelle à cette occasion, repenser notre politique publique pour renforcer notre modèle, éviter les phénomènes de concentration et de polarisation, y compris en salle de cinéma, parce que j'ai aussi cette expérience. Je sais que les résultats sont bons, mais qu'en est-il de la vraie diversité, de la biodiversité du cinéma, pour faire le parallèle avec l'agriculture? Est-ce que vraiment on a tous les bons indicateurs, les bons régulateurs Je pense que ça doit être l'occasion pour nous de nous rassembler, de nous repositionner et de revoir tous les aspects de notre politique publique de défense de notre exception culturelle.
Eh bien, votre appel est lancé.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
La culture sera-t-elle victime de la guerre commerciale? La question qu'on pose ce soir à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes. Et alors que Donald Trump a annoncé des droits de douane de 100% sur les films produits hors des États-Unis, mes trois invités sont Marianne Roméo, que l'on entendait, qui est productrice à Petit Production, société de longs métrages, documentaires et fictions, ancienne directrice de salles de cinéma, Édouard Mauria, producteur, ancien vice-président long métrage du syndicat des producteurs indépendants et membre de la Task Force en charge des négociations des accords avec les plateformes américaines, et Juliette Prissard, déléguée générale d'Eurocinéma, association de producteurs de cinéma et de télévision. Alors, on a évoqué l'intention du président américain Donald Trump et les conséquences que cela peut avoir. Juliette Prissard, quand Marianne Roméo dit que ça peut être une aubaine finalement pour la redynamisation du cinéma français, du cinéma européen. Vous êtes d'accord?
Alors, j'aimerais, et Marianne, on en rediscutera. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est qu'actuellement, les plateformes de VOD par abonnement, en Europe, elles ont, en termes de consommation, une part de 90% du marché. Donc, entre Netflix, Amazon et Disney, c'est 90% du marché. Donc, en gros, si il y a vraiment un rapatriement des tournages américains, ils vont garder les parts de marché, mais par contre, on n'aura plus l'argent d'investissement des tournages américains. Donc, moi, j'ai un peu peur de cette situation. Ça peut être, alors après, ça peut être une position transitoire, mais à ce moment-là, il faudrait qu'aussi on renforce la diffusion et qu'on prenne des parts de marché aussi sur la diffusion, parce que là, la diffusion, elle est quand même très, très, très installée. Mmh. Et ils ont un savoir-faire en matière de plateforme VOD qui est relativement inégalé. C'est-à-dire qu'une plateforme telle que celle de Disney, et particulièrement celle de Netflix, il n'y a pas plus simple et il n'y a pas plus efficace. Ils ont des algorithmes extraordinaires. Bon, voilà. Donc, on arrive... De là arriver à dire qu'on va arriver à faire ça, j'ai peur qu'on soit dans une situation perdant-perdant. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on pourrait aussi être dans une situation dans laquelle on se pose la question de savoir pourquoi Trump fait ça. Et on peut aussi se dire qu'au fond, parce que cette déclaration n'a pas grand sens en vrai, donc les barrières tarifaires pour les films produits, toutes les entreprises américaines produisent donc en Europe, donc des barrières tarifaires pour ses propres entreprises, ça paraît un peu illogique. On pourrait aussi penser que c'est une stratégie du choc. C'est-à-dire qu'en fait, il fait une annonce qui nous met tous dans une situation de stress absolu, et que du coup, après, dans cette grande négociation qui a lieu en ce moment, en termes européens, sur tous les sujets de barrières tarifaires, et notamment de la régulation des plateformes comme type YouTube et compagnie en ce moment, dont il ne veut pas. En ce moment, il y a des grandes négociations, des grandes manœuvres sur savoir qu'est-ce qu'on fait. Les voitures contre le digital et compagnie. Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement dire, ben voilà, alors, bon, ok, alors on arrête mon histoire de barrières tarifaires, mais par contre, vous assouplissez un peu votre réglementation au niveau de l'audiovisuel, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment problématique. Mmh. Et là, à ce moment-là, on aurait un assouplissement de tout ce dont on est en train de parler, donc cette exception culturelle. Mmh. Et peut-être que finalement, le plan B, ou plutôt ces stratégies du choc, et derrière, remise en cause de l'exception culturelle. Mmh. Moi, c'est surtout de ça dont j'ai peur aujourd'hui.
Ouais, je comprends bien. Mais pour être un peu plus positif, on peut aussi se dire que c'est un rappel utile. En France, on en avait plus conscience, et encore, mais au reste de l'Europe, que nous avons besoin d'une Europe de la culture. Mmh. Et que confier tous nos intérêts aux Américains en se disant « c'est formidable, l'argent n'a pas d'odeur », est un risque majeur.
C'est le coup de semonce de toute annonce finalement de Donald Trump. Ouais. Pareil pour la défense, pareil pour le désengagement américain.
Exactement.
En général.
Et on a peut-être été un peu naïfs, nous, en France, à certains moments, en se disant que l'argent n'ayant pas d'odeur, on pouvait faire rentrer des capitaux américains, dans certaines sociétés françaises. C'est ce qui était un très grand risque. Et on voit aujourd'hui que le risque qu'on a pris à considérer que les Américains étaient forcément ouverts à notre système. On est dans une lutte, on est dans une guerre économique.
Est-ce que ça peut toucher à ce qui fait la richesse finalement du cinéma aujourd'hui, c'est sa diversité, sa mondialisation?
Vous le dites très bien, la diversité, c'est vraiment le mot-clé de notre système. C'est ce que disait aussi Juliette tout à l'heure. Nous, on considère le cinéma non pas, et pas seulement comme une industrie, mais aussi comme un objet culturel. Et donc, ce qui est intéressant dans un objet culturel, c'est qu'il soit divers, c'est qu'il nous surprenne, c'est qu'il nous étonne. Et quand un film sort, oui, certains films sont bâtis pour être des succès, et d'autres sont des succès surprises. C'est vraiment exactement ça le cœur, nous, de cette industrie culturelle. Sa diversité, exactement.
Sa diversité et le fait qu'elle n'est pas une marchandise.
Exactement.
Comme les autres. Marianne Roméo, j'aurais qu'on prenne un peu de hauteur, il nous reste quelques minutes. Demain, l'ouverture du Festival de Cannes. Comment ce Festival de Cannes va-t-il s'ouvrir? C'est le premier depuis la réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Comment il s'inscrit, justement, 15 jours après ces annonces, encore une fois, qui ne sont pas officielles, hein. On a bien compris tout au long de ce débat qu'on s'interrogeait aussi sur le fait qu'elles allaient être mises en œuvre ou pas.
Oui, alors de toute façon, c'est sûr qu'on va en parler, on ne va pas cesser d'en parler. Ça va être le gros sujet de ce festival. Des films américains sont présents, des films indépendants, il faut le dire aussi, parce que le cinéma américain a aussi un cinéma indépendant. C'est évident que ça donne lieu à des inquiétudes, des spéculations de tout ordre. Moi, j'ai envie vraiment de reprendre cette idée de l'investissement sur les studios français, qui est quand même pas négligeable et qui pourrait nous donner envie de reprendre, par rapport à ce que disait Édouard, des spécificités françaises, c'est-à-dire de ne pas se conformer à l'hypothèse que des tournages américains peuvent se dérouler dans ces studios, mais vraiment de se demander quelle est notre exception, notamment par exemple la diversité du film d'animation, par exemple, qui est une grande caractéristique de notre cinéma, le documentaire cinématographique qui a aussi une grande force. Essayer de voir, alors là c'est pas forcément dans les studios, mais c'est dans d'autres logiques de tournage et d'économie, mais maintenant il y a aussi du documentaire qui se fait en studio, notamment tout ce qui relève du documentaire qui peut mêler en fait les genres. Le documentaire mêle maintenant l'animation, donc il y a tout un, ou les documentaires de dispositifs, il y a tout un tas de spécificités qui peuvent vraiment nous orienter en vertu de ces annonces. Si jamais elles étaient mises en place, ben moi je suis quand même d'accord avec ce que dit Juliette, c'est sûr que ça pourrait avoir des effets très problématiques. Mais moi, j'ai confiance dans notre modèle qui est là depuis 1946.
Mais vous parlez du modèle français. Tous les pays d'Europe n'ont pas la créativité du cinéma français et donc la même capacité à réagir à de telles attaques.
Non, bien sûr, mais ça peut être justement un modèle à prendre en compte. Vous savez, il y a cet effet de clause juridique, hein, la clause de l'européenne la plus favorisée, par exemple, pour le droit des femmes. Eh bien, le modèle français du cinéma pourrait aussi, évidemment, avec des aménagements, parce que nous, on a une taxe prélevée sur chaque ticket de cinéma, et tout ce que je vous disais tout à l'heure sur cette culture longue du cinéma. Mais je pense, encore une fois, et d'ailleurs, les Européens, Juliette ne me contredira pas, les pays européens, souvent, viennent nous demander, nous, à partir de cette exception et de nos spécificités, quelle réponse donner. Donc, on reste quand même un phare, même si parfois ce phare peut être contesté.
Eh bien, ne vous contredit pas, elle vous fait oui de la tête. Et pour répondre à cette question, mais à la culture sera-t-elle victime de la guerre commerciale? On verra bien, évidemment, si les annonces sont suivies des faits. Mais en tout cas, ça augure d'un bras de fer, pour reprendre ce que vous disiez, Édouard Moria. Car nos productions ont de la ressource, pour citer Marianne Roméo. Merci beaucoup à vous trois, Édouard Moria, Marianne Roméo et Juliette Prissard, d'avoir été les invités du débat du jour. Merci à Florence Ponce à la préparation de cette émission et à Claude Battista à sa réalisation.
RFI.
Et dans une minute, ce sera le grand journal du soir. Et 30 minutes plus tard, la première édition d'Afrique Soir de ce lundi. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Tiens, on jette un coup d'œil au programme qui nous attend.
Oui, on parlera de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à moins de 6 mois de la présidentielle et Tidiane Thiam démissionne de la présidence du PDCI, le principal parti d'opposition. Mais il devrait se faire réélire dès mercredi lors d'un congrès extraordinaire. La question de sa nationalité est au centre de la polémique. Nous vous expliquerons tout ça dans la première édition d'Afrique Soir. Nous parlerons également du bras de fer qui se poursuit entre Paris et Alger. Nouvel épisode de la crise diplomatique entre les deux capitales. L'Algérie expulse de son territoire de nouveaux diplomates français. Actualité économique très chargée en Afrique, puisque la 12e édition de l'Africa CEO Forum s'est ouverte à Abidjan. 3000 participants réunis pour repenser les relations économiques entre les secteurs privés et publics. Et puis, à Lomé, au Togo, la dette africaine est au centre d'un sommet de l'Union africaine. Ce sera le dossier de notre émission.
Ce sera dans 30 minutes. Merci Sylvie Berruet. Restez à l'écoute, à suivre le Grand Jean.